I'm a man. Well, nobody's perfect. I'm a man.
J'ai posé le livre sur la table. Ça a vraiment... Hein, c'est comme si je, voilà, je sortais...
Bah, la table, c'est affaissée. Hein.
Voilà, la table, c'est affaissée. Écoutez, je voulais commencer par un prologue mythologique. Ce soir, on va parler de Detroit, Roma. Alors, Détroit, Roma, je veux dire les deux, de toute façon, j'en suis sûr. Donc, Detroit, Roma, c'est une bande dessinée de Hélène Usdin et de Joseph Bonny. Et on va débuter avec un prologue mythologique. Ce sont les premières... pendant que, comme d'habitude, Emiliano range ses affaires parce qu'on ne sait jamais. Il pourrait être en retard au cours suivant. Ouais. Un prologue mythologique... Une cité vide d'après les désastres, la nature commence à manger l'asphalte, les immeubles en ruine, une tigresse déambule, elle va boire au fleuve, un berceau pneumatique flotte, deux nourrissons crient, la tigresse les prend délicatement dans sa gueule et les emporte jusqu'à son trône, un énorme pneu publicitaire uniroyal, elle les nourrit. Il s'endorme sur son pelage au rythme de sa respiration altière. C'est le début de quelque chose. Ils ne seront pas réveillés par l'antique Ford Galaxy Starliner qui file à côté avec la voix de Gil Scott-Heron à fond.
If I never went home again.
Detroit Roma est l'une de ces histoires parfaites parce qu'elle vise élégamment la simplification. C'est la structure pour moi de certains films de Pedro Almodovar ou alors d'une bande dessinée qui m'a beaucoup plu, qui est le Rebetissa de David Prudhomme. J'explique, c'est que ça débute dans le désordre, des personnages naviguent sans qu'on les comprenne. Il y a des flashbacks, des béances, ni rime ni raison, mais quelques épiphanies. Le genre est incertain. S'ajoute une superposition de références. Quand on commence à feuilleter la bande dessinée, on se dit mais dans quoi on pénètre? Est-ce qu'on va y arriver? Et en plus, il y a un...
Confirme, je suis en train de feuilleter, oui. La multiplicité des références et l'ampleur de l'univers, c'est exactement la sensation qu'on a.
Et en plus, il y a un lot de techniques disparates, du stylo-bille, de la gouache, de l'aquarelle, du feutre noir. Et donc, dérèglement ultime pour le lecteur, parce que j'en fais un peu trop, les pages ne sont pas numérotées, ce qui a rendu ma prise de notes coton, puisque vous le savez.
Oui, ça vous aimez pas.
Hein. Ah non, ça j'aime pas, j'aime prendre des notes. Mais de ce désordre, à la fin, il ne restera pas trace. Le lecteur aura levé les énigmes, la carte sera lisible, chaque personnage se trouvera où il doit être. En effet, c'est une histoire qui se ramasse élégamment pour devenir un simple objet comme ça à la fin. C'est pas un happy end pour autant, hein. Attention, les deux filles dont je vais vous parler, elles reviennent de loin, mais elles auront trouvé leur place dans le monde. Le bonheur, lui, n'est pas au programme. Alors ce parcours en étoile invite à des débuts qui diffèrent, pas d'incipit, un prologue mythologique, on l'a vu, des hypothèses plutôt. La phrase qui revient, c'est « ça pourrait commencer là ». Ou, c'est selon, face à un écran de cinéma qui projette les dernières images de Thelma et Louise. Ça pourrait commencer là, quand, la nuit de l'incendie du Café Roma. Il y aura une variante à la moitié du livre, ça avait dû commencer comme ça, avec une double page superbe et inquiétante, c'est le petit post-it 11 si vous voulez l'avoir, et c'est vraiment un magnifique gros plan comme ça de deux personnages. Parlons des Two Broke Girls, des deux filles qui sont nos héroïnes, qui sont dans la Ford Galaxy Starliner. Elles s'appellent Becky et Summer. La première, Becky, elle a coupé sa coupe afro pour des cheveux courts. Son visage est peut-être plus dur. Et puis, elle a adopté un look garçon manqué assez boyish. Nike au pied, un sweatpants Adidas et un débardeur blanc. Elle porte un sac à dos et un lot de mauvais souvenirs qui nous assailleront en flashback. Summer, elle porte des Santiago fuchsia, une mini jupe en jean, un croc top avec un drapeau des États-Unis qui s'effiloche, et comme hit bag, comme sac du moment, elle porte une urne funéraire. Ce sont les cendres de qui ? On l'apprendra dans longtemps ou dans beaucoup de miles, si vous préférez. Et puis du passé, Summer ne veut rien dire. Les deux personnages sont creusés avec sensibilité et surtout avec tout un régime d'illustrations inventives. Et si vous ajoutez à ça des dialogues crédibles qui en font pas trop, tout ça fait un road trip qui ne tient pas de la fable postmoderne qu'on voyait pourtant venir dans le rétro. Je craignais en effet ce côté fable postmoderne, c'est-à-dire que toutes ces références donnent plutôt quelque chose de ludique, mais qui serait plus un jeu de référence et qui nous mettrait à distance de l'émotion, ce qui n'est pas le cas. Et puis, ce voyage bénéficie de 365 pages. Il faut le dire, c'est un bouquin qui fait 365 pages d'un mouse format italien. On est sur un maxi-livre de poche à ce niveau, enfin, où il faut plutôt une énorme poche pour que ça rentre.
Ah, vous appelez ça un livre de poche ?
Non, je plaisante. Oui. Il faut une poche gigantesque pour que ça rentre. On est évidemment, enfin là, ce format-là, vous le rangez en même temps dans vos beaux livres que dans les bandes dessinées.
Oui, puis il fait ses 3 kilos. Hein. Oh,
oui. Et quand
c'est ma contribution à la chronique.
Quand on ouvre une, prenez-le, Emiliano. Quand on ouvre une double page, elle fait 60 sur 25. Ce qui fait que ça tient pratiquement du vista-vision, c'est ce qu'on disait, Olivier Audin. On est sur du vista-vision. On tient donc véritablement une vaste entreprise panoramique. C'est un road movie à scruter. Parmi ce qu'on sait, alors parce qu'on sait quand même des choses dès le départ, nous sommes en 2016, les filles partent ou fuient, oh, fuient sûrement, de Detroit, Michigan, pour aller à Roma. Alors, on met très vite de côté la possibilité qu'elle débarque en Italie. On soupçonne alors un coup à la Paris-Texas. Et bingo, le but, c'est Rome en Géorgie, soit un voyage vertical, nord au sud, du présent vers le passé. Je vous propose qu'on écoute, puisque le co-auteur Joseph Bonny est également musicien, qu'on écoute un morceau qu'il a composé.
Thank you.
Radio, sur Radio Balistique, 103 pour l'FM, balistique.fr pour le player et les podcasts. Je rappelle que les Nobos aussi sont maintenant disponibles sur Spotify. Autour de moi, moi c'est Anthony en toute majesté, Antoine Emiliano et Benoît évidemment qui réalise l'émission. On parle ce soir de Detroit Roma. C'est une nouveauté BD aux éditions Sarbacane. C'est sorti début novembre. Et c'est un texte à quatre, enfin une bande dessinée à quatre mains, Hélène Usdin, Joseph Bonny, et je crois que le second est le fils de la première. C'est le petit moment maintenant, brocante, vous savez que j'ai mes petits instants à faire conclu, hein, c'est mon credo, j'aime trouver des objets trouvés dans les bandes dessinées ou dans les livres. En voilà quelques-uns qui vont nous permettre comme ça d'évoquer des personnages ou des atmosphères. Alors les scènes à Detroit tournent autour du café Roma où Becky trim. Selva, une amie et cliente, paye son café avec de menus objets trouvés. Au passage, Selva est éboueur et les ordures sont collectées dans les quartiers riches et c'est tout. Nous sommes dans la période, alors toute la partie liée à Detroit se passe dans un passé récent, celui qui a connu la décadence de la ville, hein, c'est-à-dire que vraiment la nature a repris ses droits dans certains quartiers, il n'y avait plus d'éclairage public, plus de transport public, c'était plus rien quoi.
Hein, dans le centre-ville. Ouais.
Une gare complètement vide, c'était assez. La déliquescence qu'a connue cette ville était assez phénoménale. Et donc Salva, elle paye comme ça ses cafés parce qu'elle n'a pas beaucoup d'argent. Hein. Elle paye ses cafés avec des petits objets et relevons donc ce sifflet avec une tête de tigre, sifflet que Becky offre à une autre habituée, Summer, qui débarque au petit matin, dernière étape de sa nuit, le soleil se lève, elle non plus. On relèvera également le zippo de l'adipeux Miller. Miller, c'est le proprio du café Roma, c'est un rapace mafieux qui rachète les taudis pour faire la culbute. Le déclin de Detroit, je vous le disais, est rapporté en arrière-plan et on voit vraiment tout un... tout le jeu de la corruption aussi, dans les deux sens, dans le pourrissement et évidemment la corruption des hommes. Il y aura une maxi boîte de chocolat, la Dolce Vita, je l'ai vu. Anita Ekberg danse dessus et dedans d'autres surprises que des pralines, vous verrez ça. Un paquet de Denil International, vermillon et or, c'est le paquet de cigarettes de Gloria Rose, des cigarettes que j'ai fumées il y a bien longtemps maintenant. Dans la vaste demeure de cette dame, Becky a un deuxième petit boulot Gloria Rose, disons que c'est une sorte de Betty Boop sénile avec une tête de pygmée rehaussée de fossiles. C'est une héroïne trop fardée de Hag Movie. Le Hag Movie est ce genre de film où des grandes stars au glamour Chancy s'illustrer comme John Crawford. Elle est par ailleurs de l'une des plus belles planches du livre. Vous pourrez aller la voir au post-it 12, messieurs, où on la voit entre Cruella d'Enfer par Disney, la Salomé d'Oscar Wilde dessinée par le jeune génie Aubrey Beardsley, une atmosphère délétère, du confinement, hachures, trame pour les textures, pelage tigré, fourrure et fumée. Alors vous diriez, Gloria, pitoyable, à prendre des pauses comme ça dans son mausolée. Enfin, mausolée, c'est plutôt un cénotaphe, parce que Gloria, c'est une Norma Desmond, du nom de du personnage dans Sunset Boulevard, le grand classique de Billy Wilder, mais c'est une Norma Desmond sans carrière. Hein. Norma Desmond, dans le classique de Billy Wilder, incarnée par Gloria Swanson, c'est une actrice qui a une carrière, qui a eu vraiment une grande carrière. Gloria Rose, n'a rien fait, mais elle soutient qu'on lui a volé sa carrière. Alors vous la diriez pitoyable, noyée dans son peignoir panthère et le whisky glace, mais il y a une prédatrice chez elle, faire mal est un instinct. L'écran de cinéma qui rythme la BD nous donnera à voir deux sœurs de Gloria, deux sœurs possibles. Je pense à Faye Dunaway et son glamour vicié dans Chinatown. Et puis une voisine de Gloria à Detroit, à peu près à la même période, c'est la vampire lascive de Only Lovers Left Alive, incarnée par Tilda Swinton superbe film de Jim Jarmusch. Voilà, et d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, qui écouteront par le podcast, on mettra un morceau de la bande originale du Jarmusch à la fin de ce Nobo. Alors, oui, il y a un écran de cinéma, mais en plus de tout, hein, en plus de tout ce que j'essaye de vous... Il y a un écran de cinéma qui ponctue régulièrement le livre, à la fois signe et ligne de fuite. C'est un cadre dans le cadre. Il passe beaucoup de stars féminines, des stars italiennes aussi, tandis que la voix de l'une des filles s'élève comme une voix off. Et faut dire ce qui est, c'est vraiment très beau. Alors, je l'ai dit, les deux filles prennent cette Ford Galaxy, descendent de Detroit à Rome, en Géorgie, mais elles descendent aussi du présent vers le passé. Voilà, c'est le livre d'une certaine intériorité, comme ça, tandis que les panoramas défilent. Il faut retenir qu'il y a un lieu qui revient, et qui est d'ailleurs, qui figure sur la couverture du livre, c'est le motel. Alors, le motel, il s'avère que c'est ma marotte. J'aime les motels, je ne sais pas pourquoi, je crois que je serais incapable de passer une nuit dans un motel, tellement c'est craspec, et puis en plus, la plupart des motels, pour moi, ce sont ceux qui servent évidemment à psychose, qui servent évidemment de scènes de crime pour les experts Las Vegas, mais aussi c'est celui où Naomi Watts est avec une culotte rouge dans 21 grammes, qui a beau être un mauvais film, et bien les deux scènes où Naomi Watts est en culotte rouge dans une chambre de motel, ça, voilà, ça sauve le tout. C'est aussi pour moi vraiment le meilleur de la littérature, c'est Lolita de Nabokov, qui est un grand livre sur les motels. C'est Le motel du voyeur, qui est une grande enquête de Gaëtan Lizzi. Donc voilà, vraiment, c'est un lieu pauvre et riche. C'est assez surprenant. Donc le motel, c'est Mamarotte, et ses lieux communs échoués en bord de route demeurent parmi les espaces les plus mystérieux des fables contemporaines. Je les ai tous relevés, ce qu'on voit dans la BD. J'en ai choisi trois pour vous. L'Eldorado Motel, où il n'y a pas de clim, mais Kevin et sa mère fournissent des ventilateurs. Kevin, un Norman Bates trop mou pour nuire. J'ai été frappé par la figure de Monsieur Salvador à l'Eldorado Motel, muet, perdu, posé là. C'est un voyageur sans bagage. Le philosophe Bruce Begou a forgé le mot valise au bohème, que je trouve assez juste pour décrire ces personnes qui errent comme ça de motel en motel. Au Wine Motel, eh bien, sa piscine illuminée, la nuit c'est fuchsia, violet, verre d'eau opalescent. Becky reste en bord du bassin et dit « Ma mère est morte noyée dans son bain ». À Detroit, si vous composez le 313-897-4849, vous pourrez réserver une chambre au Pinkim Motel. Mais depuis cette ruine, à mon avis, ce ne sont que des spectres qui répondent. Le motel, c'est l'espace qui revient le plus souvent. C'est un espace de transition, c'est entendu, mais c'est aussi un espace de transition, une transition subite entre l'horizon, du moins celui qu'on a du pare-brise et puis de la voiture décapotable, et puis ce qui reste quand même un cube de quelques mètres carrés. Je ne sais pas combien de fait une chambre d'habitude dans un motel, mais c'est tout petit. Y a aussi des supermarchés qui reviennent dans ce texte. Tout ce qui est en bord de route, tout ce qui n'est pas glorieux et en bord de route. Les trois scènes avec ce décor du supermarché m'ont intéressé parce qu'on voit vraiment comment l'autrice va les traiter de façon distincte, et ça c'est à ça qu'on reconnaît quelqu'un qui fait le boulot, quoi, qui trouve pour les trois fois ce qui doit, par rapport à ce qui se passe, par rapport à où on est, ce qu'on va faire pour les traiter. C'est une scène d'ailleurs qui doit beaucoup à Brecht Evans, je sais pas si vous connaissez ce et je voulais le citer parce que c'est une influence certaine. On va lâcher les noms, ça y est, pendant qu'on y est. On pense, dès le départ, vous l'avez cité, à Edward Hopper. Edward Hopper, forcément, est la tristesse atone et solennelle de son travail, un cartographe des No Man's Land et de leurs frontières mobiles. Alors, si on cite Hopper, il faut qu'on cite John Register. L'un et l'autre sont des grands peintres de motels. L'un et l'autre développent une métaphysique des lieux désolés. J'emprunte de nouveau ces mots parfaits à Bruce Begou. Tous les deux représentent aussi une forme d'anéantissement du voyageur. Hein, vraiment, c'est clairement métaphysique. Mais Register, lui, il ajoute quelque chose quand il parle de leur travail à l'un et l'autre. Dans les tableaux d'Hopper, le spectateur contemple des personnages solitaires et résignés, tandis que dans mes tableaux, il est lui-même solitaire et résigné. C'est-à-dire que dans un tableau d'Hopper, vous avez le personnage sur une chaise qui regarde par une fenêtre. Dans le tableau de Register, vous n'avez plus que la fenêtre avec une chaise vide. La différence. Donc c'est vraiment l'extinction par le décor, des chaises toujours vides, un téléphone à pièces sans pavé numérique. D'autres noms, Stephen Shore, grand photographe, et son classique Surfaces américaines, feuilletez ça, édition Faïdon, vous aurez envie de l'avoir pour Noël. Cindy Sherman. J'ai pensé à Félix Vallotton. Alors pourquoi aller chercher ce Nabis ? Tout simplement déjà pour la palette de couleurs des Nabis, et puis aussi parce que c'était un grand graveur. Il travaillait incroyablement le noir et blanc pour des scènes d'intérieur très psychologiques. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de travail de gravure dans la bande dessinée qui nous intéresse ce soir, mais il y a beaucoup de scènes en noir et blanc qui peuvent évoquer comme ça, avec le travail sur les trames, sur les hachures, quelque chose qui tiendrait de la gravure. Et le dernier, avant qu'on fasse une pause avec vous, Emiliano, le dernier photographe que je voulais évoquer, c'est Grégory Crutzon, qui a de vastes tableaux à l'atmosphère d'épouvante familière. Il me fascine, hein. Ce sont des mises en scène minutieuses ou errent de pâles apparitions américaines. La direction artistique excessive de chaque œuvre provoque rejet et fascination. On va faire une pause. Vous avez choisi ?
Mais j'ai choisi un dernier disque que j'ai acheté, pas cette fois-ci, mais il y a au moins 2-3 ans chez ce disquaire à Rome, Soul Food. Et donc ils ont ce petit label, hein, Hate Records, qui fait surtout dans la réédition. Et ils avaient réédité cet illustre inconnu qui s'appelle Jean-Luc. Enfin, c'est son nom de scène.
Alors, Luc avec un K en plus,
oui.
Mais pas de E.
Ouais.
Ah,
ouais. En fait, son vrai nom, c'est Luciano Gentile. Et en fait, il est mort très jeune, hein, non pas à 27 ans, mais à 19 ans d'un accident de voiture. Donc, mais il a quand même eu le temps d'enregistrer 8 45 tours. Donc voilà, ça fait au moins 16 morceaux. Ouais, ouais. Voilà, c'était surtout un guitariste voilà, de l'époque, entre 62 et 63. Ouais. Et on écoute un morceau qui s'appelle Anna Twist. On s'aiguille pour ton voler, et parlant de rock, elle dit yeah, na, 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 na. Sei felice quando balli tu. Ti porto in paradiso, Anna il yeah! Anna, 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 vieni ancora a ballare insieme a me. Oh, bolli, 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 bolli e balli, e ballando infine cadi giù. Ti scatto, torni in piedi, fai l'occhietto a chi ti guarda. Oh, Anna twist. Tu che con l'amore ciò e con tutti ti diverti, non capisci che baciare come di saper ballare. Oh, Anna, il twist. Ah, Jean-Luc.
Jean-Luc, oui.
C'est Jean-Luc à l'instant. Voilà. On sait pas en fait qui sont les musiciens sur ce disque, à part Jean-Luc. Voilà, on sait pas qui joue du saxophone. Voilà, c'était sorti en 1963. Ouais. Et voilà, ça a été réédité il y a quelques années, voilà, chez Hate, grâce à ce tout petit label romain, Hate Records.
Merci, merci Emiliano. On reprend, c'est la dernière ligne droite pour notre road trip. C'est un peu facile ça. Pour notre road trip grâce à Hélène Usdin et Joseph Bonny, Detroit, Roma. On est avec Becky et Sommer dans la voiture. Je vous ai mis de côté vraiment ce qui va leur arriver parce que justement, je voudrais, pour ceux qui vont prendre le temps de découvrir cette bande dessinée, il y a quelque chose comme ça de tellement étoilé que même si ce ne sont pas des rebondissements phénoménaux, on ne les voit pas venir, dans la mesure où c'est, voilà, c'est une intrigue qui est tellement comme ça... C'est en tout cas une grande œuvre crépusculaire sur toutes les chutes. D'abord, la chute de Detroit, qui est vraiment traitée, ça soit le scandale de l'eau, l'état de la ville. Et on voit entre autres les flashbacks. Tous les flashbacks à Detroit semblent se passer dans un demi-jour, enfin vraiment, ouais, une fin de journée d'hiver. C'est traité en gris bleu, bleu pigeon, gentiane, ardoise, gris anthracite, gris vert. Les couleurs éteintes d'une ville sans réverbère. L'autre chute, c'est la chute verticale. C'est la fuite des deux filles, la fuite vers le sud. Et c'est celle aussi du jour. Sur la route, intensément coloré là par contre, hein. On croirait un seul soir qui tombe dans une débauche technicolore de sublime, des ciels déchirés et flamboyants, lardés de meurtrissures, violets, fuchsia, roses, oranges, rouges, tous les rouges. Parfois, en réponse à ces ciels meurtris, le sol aussi joue les marbrures, des flaques d'eau déchirent le bitume, où se reflète le dernier soleil ou les premiers néons. Le quatrième de couverture est d'ailleurs là-dessus assez représentatif. Et vous ai-je dit aussi que collé sur le ciel, comme des stickers ou comme des pansements peut-être, hein, des pansements sur les meurtrissures du ciel, tous les panneaux et les enseignes du bord de route, Family Restaurant, KFC, Dining Room, Kids Eat Free, Mannequin, H&M, en bord de mer, Subway, Applebee's, etc., etc., etc. Un désordre de flèches et d'injonctions contradictoires. Ce qu'on traverse véritablement, c'est une America deserta. Alors là, c'est de nouveau un concept que j'emprunte à Bruce Bégou, qui lui-même l'emprunte grâce au grand livre de Jean Baudrillard, que je n'ai pas lu, qui s'appelle L'Amérique. L'America deserta, même quand c'est vert, c'est désert. Hein, ce n'est pas que le désert américain. C'est vraiment cette sensation qu'entre deux villes, entre deux banlieues, et parfois dans la banlieue même, il y a une sensation du désert si on regarde sur le bord. Les bords de route ne semblent être que de vagues et vastes terrains vagues, spectacle hypnotique interrompu par les décors Arte Povera, des motels, des diners. Becky retient des visages qu'elle croque dans son carnet, et d'ailleurs le carnet est intégré à la BD entre les flashbacks, les écrans de cinéma, l'histoire de la décadence de Detroit, l'histoire américaine avec des références un peu trop tardive, ça vient un peu trop tard, donc on aurait peut-être presque pu en faire l'économie, à l'Underground Railroad. Entre America deserta, les flèches des enseignes, les motels interchangeables, les souvenirs qui collent au présent et le cinémascope qui coupe le souffle, eh bien c'est une forme de sidération qui nous prend face à de tels panoramas, on s'avoue paumé. Alors on scrute, on a 365 pages pour remettre de l'ordre. Nous sommes des lectrices, nous sommes des lecteurs, bon sang, d'hardis voyageurs en chambre, donc parés à partir en exploration, parés à pister tous les tigres de fiction, dont ceux qui se promènent dans Detroit Roma. Hélène Usdin, Joseph Bonny, c'est aux éditions Sarbacane. C'est un beau livre, donc vous pouvez peut-être vous le faire offrir aussi, hein, si voilà. Je voulais citer comme livre vraiment important pour moi Bruce Bégou, Lieu commun, aux éditions Alia, qui est toute une réflexion assez nourrissante sur le motel. Mais il a écrit, quand il a écrit sur les motels son essai, étant donné qu'il a fait tout un tour des motels américains. Il a écrit aussi des petites fictions qui s'appellent Éblouissement du bord de route, c'est chez Vertical. En plus, c'est un format poche. Donc là, vous pouvez avoir les deux. Essayez d'aller voir aussi, alors je ne sais pas si c'est exposé, Hélène Usda a vécu à Detroit et en plus a fait une bonne partie du chemin de Becky et Summer et apparemment elle a pris des murs entiers de photographies. Et donc c'est peut-être à voir ça. Enfin, recommander un livre qui n'existe pas, celui qui recense tous les motels avec tous les motels de livres et de films avec cartes, noms, extraits d'œuvres, photos, bref le livre que j'attends.
Bah, il existe dans la bibliothèque de Babel.
Voilà, c'est Borges lui a l'arrangé quelque part. Mais alors, allez savoir où. Hein. Vous avez une réaction, messieurs?
Dans l'exercice de name dropping que vous aimez pas du tout, mais auquel vous êtes vaguement, vous avez vaguement cédé à la tentation à la fin. Je vous ai pas entendu mentionner David Lynch, à la fois pour la dimension américaine, Americana Deserta aussi. Hein, c'est quand même un explorateur des motels. J'ai vu une planche où il mentionnait Mulholland Drive, enfin où il y avait une reproduction d'une séquence de Mulholland Drive. C'est quelqu'un qui cite beaucoup Hopper sur la palette de couleurs. Enfin, moi, en feuilletant, c'est un nom qui m'est venu tout de suite.
Oui. Alors, apparemment, je crois qu'Hélène Usda aussi cite David Lynch comme une influence. J'ai juste décidé de moins citer David Lynch parce que j'ai l'impression, quoi que je lise, ouais, qu'à un moment ou un autre, l'artiste en question est passé par David Lynch. Alors, bon, des fois, je le mets un peu de côté.
Je comprends. Oui, non, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on utilise Lynch comme synonyme de bizarre ou d'étrange, ça m'agace. Là, c'était davantage sur une dimension esthétique. Hein.
Voilà. Et puis là où je vous suis, en plus, c'est qu'il y a beaucoup de motels chez David Lynch. Il y en a toujours eu dans toute sa filmo. C'est vrai.
Ouais. Moi, j'ai surtout envie de remercier Ray Cooder, hein, parce que c'est.
Oui.
Il nous a accompagnés quand même pendant.
C'est Benoît
une petite demi-heure.
C'est Benoît qui s'occupait de ça. Paris, Texas, qui est un autre souvenir.
J'ai vu aussi passer une citation explicite du plan du Peep Show avec Natasha Kinski de Paris, Texas.
Qui a un pull, alors pas de la même couleur que moi, mais qui.
Je vous imagine très bien avec.
On donne envie, ça donne envie de mettre sa tête dedans.